Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour à toutes et à tous ceux qui découvrent cette nouvelle émission sur Radio Présence. L'idée, c'est enfin d'ouvrir l'antenne à des populations largement méconnues et que l'on côtoie pourtant dans notre plus proche voisinage. C'est donner envie de les suivre dans leur parcours, dans leur grande précarité, qui est peut-être aussi leur immense richesse. L'idée, c'est de montrer l'envers du décor et la plus-value formidable dont nous nous privons en méconnaissant toutes ces personnes qui sont des forces vives de notre société. C'est la plus-value des silencieux. L'envie aussi de cette émission, c'est de pointer du doigt la qualité intrinsèque des personnes plutôt que leurs défauts, prouver qu'ils sont tout autre chose que l'image qu'on véhicule, démonter les poncifs tenaces et destructeurs. Bienvenue dans la vraie vie, en somme. Toute subjective qu'elle soit, cette vraie vie, elle sera exprimée par celui qui la vit et pas par le truchement d'un autre, encore moins par le seul prisme ravageur d'un fait divers. Sans panique ni déni, voici votre nouvelle émission. Bonjour Aminata.
Bonjour madame.
Alors Aminata, vous êtes grande, costaude, c'est-à-dire vigoureuse, la quarantaine, vous êtes de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rencontrés à un moment incroyable de la vie des Français, c'est-à-dire en plein Covid, où vous étiez complètement paralysée, je dirais coincée dans un hôtel social. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement, où vous viviez avec vos trois enfants et où vous avez décidé de prendre en main, en fait, la scolarisation et l'aide aux devoirs de tous ces enfants qui étaient finalement reclus à domicile, comme toute la France, mais là, encore plus isolés que les autres, en fait. Et là, c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire que vous étiez une mère bénéficiaire du système social et vous preniez les rênes de quelque chose qui finalement rejoignait complètement le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, à savoir continuité pédagogique à tout prix.
Merci. Mais effectivement, j'étais hébergée à l'hôtel social pendant le premier Covid et pendant ce temps-là, on bénéficiait de l'accompagnement, on avait à manger, les associations venaient donner le colis alimentaire et tout ça, j'aidais. Par contre, de par ma formation, titulaire d'un master en gestion des projets humanitaires en Côte d'Ivoire, j'ai vite compris qu'il y avait un autre problème, il y avait un manque, il y avait un besoin, parce que il y avait la continuité pédagogique, les enseignants donnaient les devoirs par la poste ou les déposaient à la réception de l'hôtel. Mais malheureusement, on retrouvait toutes les feuilles dans les couloirs.
Personne n'arrivait à empoigner, je dirais, ce contenu pédagogique.
Parce que,
alors qu'il fallait survivre par ailleurs.
Parce que malheureusement, les gens ne s'intéressaient qu'aux colis alimentaires. C'était d'abord ça le plus urgent. Les enfants, ils gambardaient partout. Les devoirs étaient dans les couloirs parce que malheureusement, il y avait beaucoup d'analphabètes. Beaucoup d'analphabètes ou des familles très peu instruites. Du coup, ça m'a interpellée et je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
Alors, il faut expliquer quand même juste comment on vit dans un hôtel social, quelles sont ces familles qui sont regroupées, elles sont parfois très très nombreuses, et comment les parents, eux, sont analphabètes, mais pas forcément les enfants.
Oui, un hôtel social...
Et qui est là ?
C'est vrai que c'est un hôtel, mais c'est pas le luxe qu'on entend derrière hôtel. Un hôtel social, c'est généralement un hôtel que la préfecture ou... met à disposition deux familles qui sont auparavant à la rue. Donc, c'est une mise à l'abri dans des hôtels qui, bien souvent, sont pas très, très, on va dire, potables. Je suis désolée de
c'est
le dire.
C'est peu de le dire. Hein.
Ouais, c'est des hôtels souvent qui vont passer en travaux ou en rénovation. Du coup, on fait une mise à l'abri. On héberge des familles qui n'ont pas où être. Et il n'y a vraiment que le strict minimum.
En fait, donc, ce sont des familles qui sont en situation de précarité administrative, dont le sort n'est pas statué, et qui vivent dans des chambres qui font à peu près 10 mètres carrés, où ils sont parfois 3 ou 4, avec souvent un réchaud pour seule façon de cuisiner, avec des cafards comme voisins, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de délinquance, je dirais presque à tous les étages. Enfin, c'est quand même un milieu très complexe pour survivre de manière... constructive dans un hôtel social quand on est un enfant. Et vous étiez une maman à l'époque.
Oui, une maman de 3 enfants. C'est pas le cas idéal, en tout cas, un hôtel social, même si on ne crache pas là-dessus. Entre la rue et l'hôtel social, il n'y a pas photo, comme on dit. On est déjà à l'abri. Mais les conditions pour des enfants, c'est assez traumatisant. Tout ce qui se développe là-bas comme vice, comme tentation
négative.
En tout cas, tout ce qu'on sait dans la société, l'hôtel social est vraiment un nid, un creuset de tout ce qu'il y a comme mots.
Ensuite, quand les enfants deviennent adolescents. Et là, en quelques mots, avant notre pause musicale, vous basculez vers l'aide aux devoirs parce qu'on vient toquer à votre porte. Un gamin dit, Aminata, est-ce que tu peux m'aider? Parce que mes parents ne comprennent pas et moi, je perds pied.
Oui, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir fait des études. J'ai un master 2 en gestion de projets humanitaires. Du coup, moi, j'accompagnais mes enfants dans l'aide aux devoirs parce que je me dis, dans cette grande précarité-là, il n'y a que par l'école qu'on va y arriver. Donc, on ne lâche pas... même si on est reclus dans cet hôtel, même si les conditions ne sont pas bien, il faut donner le meilleur, il faut travailler. Et c'est en faisant les devoirs avec mes enfants que l'enfant de la chambre d'en face, il m'a entendu, il m'entendait chaque fois faire les devoirs et il est venu toquer à la porte pour me demander si je pouvais l'aider à faire ses devoirs. Il n'était qu'en CP. C'était l'émotion de voir un tout petit gamin comme ça s'intéresser à ses études. J'ai dit, il y a de la bonne graine, il ne faut pas le laisser comme ça. Et je me suis engagée à l'accompagner parce que, effectivement, ses parents ne parlaient pas un seul mot de français. Donc, je me suis engagée, j'ai pris contact avec son enseignante et j'ai commencé à lui faire les devoirs. Et j'ai vu qu'il n'était pas le seul. La demande était présente. Les autres enfants, ils m'accostaient, ils accouraient. J'étais devenue, en griffe, la star de l'hôtel. Ils accouraient pour me demander de l'aide aux devoirs. J'ai dit, il y a le besoin. Donc, tout de suite, l'élan va... Ça va créer un élan. Et je vais rentrer en contact avec le responsable de l'hôtel.
Et donc là, moi, quand je vous ai croisé, il y avait une trentaine d'enfants morts de faim intellectuellement, quelque part, qui voulaient travailler. Et c'est ce qu'on appelle quand même la dynamique que vous avez réussi à insuffler chez tous ces enfants dont on ignore un peu le parcours dans la vraie vie. On va écouter un morceau qui dit à ce point, c'est Roselyne Layot, hein, qui dit à quel point, il faut y aller, il faut avancer.
Ouais, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un.
Dancer on the beat.
Du coup, de cette initiative qui était vraiment dans la précarité, vous avez depuis créé une association.
Oui.
Eu une fille qui, finalement, à travers toutes ces épreuves, parce que vous-même, vous êtes une bénéficiaire, est en train d'avoir le bac. Si jamais tout se passe bien, l'année prochaine, elle a le bac à 16 ans. Elle n'aura même pas les papiers pour continuer ses études supérieures, ce qui est quand même un petit vide juridique, administratif. Qu'est-ce qui fait cet engagement de votre part, cette action, le fait que voilà, vous transformiez les épreuves en réussite comme celle-ci?
En tant qu'une maman, on voit tous ses enfants en galère. Je ne pouvais pas rester indifférente. Et je me dis aussi, comment rendre à la France ce qu'elle m'a donné? Parce que moi, j'ai bénéficié de soins en France. Et si je peux rendre à la France ce qu'elle m'a donné en aidant des enfants qui sont dans la précarité, en essayant d'être un peu un relais entre l'administration et tous ces enfants qui sont sur l'autel, qui pètent pied, toutes ces familles qui n'ont pas de référent en tant que tel, parce que soit elles ont peur de l'administration et tout ça, ou il y a la barrière de la langue, je me suis dit, je ne vais pas m'en priver. Donc, j'ai voulu me rendre utile.
Parfait. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, puisque nous concluons ce premier épisode. Et la semaine prochaine, vous allez nous raconter votre parcours, comment tout a basculé et comment vous en êtes arrivé là. Merci, Aminata.
Merci à vous.